J'ai toujours eu une tendance à m'interroger sur les choses que les gens tiennent pour acquis, pour les choses qui vont de soi. Je crois qu'il faut toujours avoir une perspective critique par rapport aux choses qu'on entend. Et c'est un peu comme ça que j'en suis venu à m'intéresser à ce sujet.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, moins on prend de recul, plus on peut être crédule face à des croyances populaires.
Oui, je pense qu'il faut avoir un certain esprit critique. Ceci dit, dans le quotidien, on est obligé d'agir, on est obligé de prendre des décisions, on est obligé de se former une opinion. Par exemple, dans une conversation avec quelqu'un, on est obligé d'avoir une opinion sur une thématique qu'on ne connaît pas forcément bien. Donc, ce n'est pas toujours possible, en fait, d'être vigilant à chaque moment de la journée. Ce n'est pas toujours possible d'avoir le sens critique. Et ça fait partie du quotidien.
Pour amorcer votre conférence, vous évoquez notamment Mozart, hein, parce que vous dites qu'à la naissance de votre enfant, vous aviez reçu un petit livret avec un CD-ROM, et on disait, si votre enfant écoute Mozart, il va devenir intelligent.
Oui, donc l'effet Mozart est une croyance populaire qui est partie en fait d'un fait scientifique véridique qui avait été démontré à un moment donné. Seulement, l'ampleur de la rumeur a complètement dépassé en quelque sorte l'étendue de la preuve scientifique. Donc, on est allé complètement au-delà de ce qui a été démontré. C'est le bouche à oreille et aussi les récits répétés dans les médias qui ont contribué à exagérer l'ampleur du phénomène.
Souvent, ce sont les médias qui amplifient des histoires pour en créer des rumeurs ou même des croyances populaires.
Alors, je dirais que les médias jouent un rôle double à ce sujet. D'une part, le rôle officiel des médias est quand même de vérifier les informations, de distinguer le vrai du faux, de vérifier les sources. Mais en même temps, souvent les journalistes ont un rôle d'intermédiaire entre les experts et le public, par exemple entre les scientifiques et le public. Et dans ce rôle d'expert, ils sont appelés à traduire en quelque sorte, à simplifier, à étoffer les découvertes scientifiques et aussi à créer des liens entre ces découvertes scientifiques et des thématiques sociétales, des thématiques d'actualité. Et donc, ce faisant, ils reconstruisent en quelque sorte le fait scientifique et parfois, en le reconstruisant, on va le transformer.
Il y a des effets qui peuvent être dévastateurs. Vous évoquez l'histoire à la fin des années 60 avec la fameuse rumeur d'Orléans.
Voilà, donc la rumeur d'Orléans était un cas où on racontait sur un commerçant juif dans la ville d'Orléans que des jeunes filles auraient été enlevées dans la boutique de ce commerçant, qui est une rumeur antisémite qui a mené en fait à la mobilisation de mouvements de foule qui auraient pu dégénérer et mener à des violences collectives contre un groupe particulier. Donc les rumeurs peuvent parfois avoir des effets néfastes extrêmement importants.
Est-ce que, humainement, et puisque vous avez étudié la psychologie, est-ce que l'homme a besoin de rumeurs? Est-ce qu'il a besoin de ses croyances?
Alors, je dirais que c'est moins l'homme en tant qu'individu, mais les groupes sociaux. Les groupes sociaux, les cultures, les collectivités vivent de manière collective des événements qui sont inquiétants, voire même traumatisants. Et c'est un besoin fondamental que de vouloir interpréter ou expliquer ces phénomènes. Et c'est dans ces tentatives d'explication, par exemple de symboliser, de donner du sens à un événement traumatisant, qu'on a tendance à, parfois dans ce genre de situation, à avoir des rumeurs ou d'autres formes de légendes qui vont émerger.